20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Qui rivalisa contre l'Égypte du deuxième millénaire avant notre ère, notamment face au puissant Ramsès II ? Qui réussit à créer non pas un royaume mais un empire, une société possédant elle aussi une écriture sous la forme de hiéroglyphes encore plus curieux que ceux des pharaons ? Un empire au cœur de l'Anatolie qui lui aussi a disparu et que le Louvre aujourd'hui ressuscite au travers d'une grande exposition intitulée « Royaume oublié ». Pour tout savoir sur les Hittites, son empire, sa grande capitale Hattusha, mais aussi les Araméens qui lui succédèrent, je me suis rendu au Louvre pour y rencontrer son commissaire, Vincent Blanchard, conservateur au département des Antiquités orientales.
Vincent Blanchard, nous voici au pays des royaumes oubliés. Pour une fois, c'est vrai. Qui connaît les Hittites à part vous ?
Eh bien, les Hittites sont effectivement un peuple qui a été largement oublié, même très tôt dans l'Antiquité d'ailleurs, à tel point que l'un des reliefs hittites qui se trouve maintenant sur la côte ionienne, eh bien, Hérodote pensait que c'était un relief égyptien. Donc c'est vous dire que très tôt, une fois l'Empire hittite disparu, eh bien, malheureusement, les Hittites sont tombés dans l'oubli et ne sont réapparu dans l'histoire avec les recherches des philologues et des archéologues à partir de la fin du 19e siècle.
J'avais pour ma part eu des liens avec cette culture puisque j'avais été invité par le gouvernement turc à voir la fameuse cité de Hattusa dans le centre anatolien. Il m'avait semblé alors que les Hittites étaient une sorte d'entité identitaire pour le gouvernement turc.
Eh bien, les Hittites, assurément, font partie du passé glorieux de la péninsule anatolienne qui devient, à partir de l'Empire ottoman, la Turquie, proprement dite. Mais effectivement, les Hittites sont très présents en Turquie actuellement sous la forme de statues dans l'espace public, de noms d'universités ou d'institutions. Bref, il y a même des logos qui intègrent des œuvres hittites. Vraiment, le passé hittite est présent dans l'actuelle Turquie.
Qu'est-ce que la chronologie des Hittites ?
Le peuple hittite, qui est un des premiers peuples de langue indo-européenne dont on a des traces écrites, arrive dans la péninsule anatolienne au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ et forme des petites chefferies dont on a des traces vers 2000 avant Jésus-Christ. Mais c'est seulement vers 1650 avant Jésus-Christ que Hattusili Ier crée le royaume hittite, centré donc sur la ville d'Hattusa, au cœur de la Cappadoce actuelle. Et ce royaume, qui aura des volontés expansionnistes dès le début, les Hittites vont raser Babylone vers 1595 avant Jésus-Christ, en réalité ne constitueront un véritable empire qu'à partir de 1350 avant Jésus-Christ.
Alors évoquons justement à tout ça et sa fameuse porte des lions que l'on voit bien sûr à l'entrée de votre exposition, ça ressemble tout à fait à Mycène.
Eh bien, c'est contemporain de la fameuse porte des lions de Mycène. Certes, la composition est radicalement différente, mais il y a également la même utilisation de blocs cyclopéens qui servent de fondation pour les murs des défenses de la ville. Et on a clairement des rapprochements techniques intéressants à faire sur les deux sites, pourtant très éloignés.
Ce sont deux grandes portes monumentales de la cité ?
Alors, la porte des lions fait partie des trois portes de la ville haute de Hattusa. La porte des lions est appelée comme ça par les archéologues. On ne connaît pas en réalité le nom qu'elle avait, mais elle porte ce nom parce qu'elle est défendue par deux lions de pierre qui émergent des jambages de la porte vers l'extérieur. Il y a également une autre porte qu'on appelle la porte des sphinx et une troisième porte qu'on appelle la porte du roi, puisque les archéologues y ont découvert une sculpture représentant un personnage qu'ils ont à tort identifié comme un roi et qui est en réalité un dieu.
Alors vous me parlez de sphinx, nous allons avancer, mais ce que je vois moi ce sont des sphinges.
Exactement, au cœur de la première salle, nous avons présenté deux sculptures de sphinges inachevées. Inachevées parce que préfabriquées dans la carrière où le basalte a été extrait, et elles n'ont jamais été terminées. Alors pourquoi des sphinges ? Eh bien tout simplement parce que d'une manière générale, dans le monde hittite, le sphinx qui a pour origine l'Égypte, où il est l'incarnation de Pharaon, le corps de lion pour la force et la tête humaine pour la sagesse, eh bien, dans le monde syro-hittite, le sphinx devient un animal plutôt mythologique, accompagnant les dieux, et il se féminise, il devient une sphinge sans barbe, donc avec une tête de femme, et d'ailleurs, le sphinx grec en gardera les traces, puisque le sphinx grec est lui aussi une sphinge, et c'est en Syrie et en Anatolie que le sphinx se dote d'aile, aile que l'on retrouvera encore une fois dans les sphinx grecs.
Là, ce sont des ébauches, c'est absolument extraordinaire. On sait quelle allure ça devait avoir au final ?
Eh bien, les deux sphinx qui sont devant nous sont inachevées. Elles proviennent du site de Tsengerli. Et dans les environs immédiats du site de Tsengerli, on a découvert un buste de sphinx achevé, cette fois-ci, qui nous donne effectivement une idée de ce à quoi pouvaient ressembler ces sphinges si elles avaient été terminées. Elles avaient notamment une coiffe qui rappelle un peu les perruques attoriques égyptiennes, de grandes oreilles, un visage assez hiératique et évidemment deux énormes pattes de lion sous leur buste.
Avançons un peu, on va passer devant des vases en argent, ce que l'on appelle en général des ritons, c'est bien sûr très beau. Les rois de Hatti ont édifié un des plus puissants royaumes du Moyen-Orient, de fait.
Vers 1350 avant Jésus-Christ, Supiluliuma Ier devient le plus grand conquérant hittite et il va conquérir une bonne partie du territoire syrien actuel et va donner à l'empire hittite son extension maximum. Et c'est bien pour ça qu'à partir de cette période, on peut vraiment parler d'un empire hittite et non plus simplement d'un royaume centré sur le territoire anatolien.
Ça va de la mer Noire jusqu'à à peu près Damas ?
C'est à peu près ça. Du nord au sud, on va des côtes de la mer Noire jusqu'à Damas. Et d'ouest en est, on va des côtes ioniennes jusqu'au quasiment au nord de l'Irak.
Et donc, on ne parle plus de royaume hittite, mais on parle carrément d'empire hittite.
C'est un empire, un puissant empire territorial, à même de rivaliser avec les autres grandes puissances de la région, à savoir la Babylonie cassite, centrée sur Babylone évidemment, et bien entendu le royaume égyptien qui, à l'époque, avait conquis une bonne partie de la côte sud du Levant.
À côté, on a Babylone, on a Assur, tout ça est bien moins vaste que les Hittites.
L'empire hittite est bien plus vaste, effectivement, que le royaume assyrien à l'époque, ou la Babylonie cassite. C'est vraiment le royaume égyptien qui a une étendue à peu près comparable.
Alors l'apogée des Hittites a lieu au cours du XIVe et du XIIIe siècle avant notre ère, en particulier sur quelques règnes de rois très importants.
Eh bien, après le règne de Supiluliuma Ier, il y a d'autres rois très importants comme Hattusili III et surtout son épouse Puduepa. Hattusili III étant très malade, c'est souvent vraisemblablement Puduepa qui dirigeait le royaume. Et puis leur successeur Tutrallia IV, qui lui aussi sera un très grand roi. Et Supiluliuma II, le dernier roi des Hittites avant l'effondrement de l'Empire.
Le grand moment des Hittites, c'est bien sûr l'affrontement avec l'Égypte rivale, celle de Ramsès II.
En fait, oui, mais tout commence d'abord sous le règne de Supiluliuma Ier, puisque c'est l'époque où Toutankhamon décède, et la veuve de Toutankhamon estime que le seul royaume digne de lui offrir un époux, c'est le Hatti, justement, le royaume hittite. Elle envoie donc une lettre à Supiluliuma Ier pour lui demander un époux. Celui-ci envoie un de ses fils, Zanandza, qui décède en chemin, et Supiluliuma Ier accuse les Égyptiens de l'avoir assassiné. Ce en quoi il n'a probablement peut-être pas complètement tort, parce que les Égyptiens ne pleurent guère ce prince allié disparu. Et c'est le début d'une série de petits conflits et de mésententes qui aboutiront en 1274 avant Jésus-Christ à la bataille de Kadesh. Bataille de Kadesh qui oppose chez les Hittites le roi Mouet Ali II et chez les Égyptiens le pharaon Ramsès II.
Je crois que la bataille de Kadesh a été fouillée en partie par Peter Parr, non, c'est bien ça. Mais en tout cas, est-ce que c'est une victoire ou une semi-défaite, hein? Et pour qui?
Si l'on s'en tient au texte égyptien, c'est une victoire égyptienne. Le problème, c'est que les fouilles ont bien montré que la ville de Kadesh était restée une possession hittite. Donc ce n'est pas une victoire égyptienne écrasante, mais plutôt une sorte de statu quo en faveur des Hittites.
Alors nous allons nous diriger vers une stèle qui est juste sous la porte donc des lionnes, stèle absolument capitale et qui justement retrace l'histoire de ces reines égyptiennes.
À après la bataille de Kadesh, les choses s'arrangent entre l'Empire hittite et les Égyptiens, et Ramsès II épouse une princesse hittite, la fille du roi Hattusili III et de la reine Pudouépa. Et la stèle de Bartan que nous avons sous les yeux, Bartan qui est une déformation du mot Hatti, la stèle de Bartan évoque une histoire qui nous dit que l'une des sœurs de l'épouse hittite de Ramsès II est malade et que le roi du Hatti demande au pharaon égyptien de lui envoyer un médecin pour guérir sa fille. Ramsès II envoie une statue du dieu Khonsu, auquel est dédiée la stèle, pour qu'il guérisse la princesse malade. Une fois la statue arrivée au Hatti, effectivement, le dieu Khonsu chasse les démons du corps de la jeune femme qui guérit. Les Hittites, manifestement, mettent un peu de temps avant de rendre la statue parce qu'elle fonctionne, mais finalement, ils finissent par la renvoyer en Égypte, accompagnée de cadeaux pour le pharaon Ramsès II. Et ce qui est intéressant, c'est que cette stèle, en réalité, a été érigée plusieurs siècles après l'histoire qu'elle raconte, à une époque où on veut insister sur le pouvoir du dieu Khonsu pour faire en sorte que les offrandes soient toujours plus nombreuses pour le temple.
À côté, un texte hiéroglyphique aussi ?
Alors nous avons à côté un papyrus qui nous raconte un épisode de la bataille de Kadesh. Cet épisode évoque l'arrivée dans le camp égyptien de faux déserteurs hittites qui disent aux Égyptiens « Mais rassurez-vous, les Hittites se replient, vous êtes tranquilles. » Alors que juste après, évidemment, Mouat Ali envoie ses troupes attaquer le camp égyptien et Ramsès II ne doit sa survie qu'à la rapidité de ses chevaux.
Là, nous sommes en 1274 avant notre ère, avec Ramsès II. Mais qu'est-ce qui signera l'effondrement, le collapse de ce puissant empire ? Nous sommes donc vers 1180 avant notre ère ?
C'est exact. Vers 1180, l'empire hittite s'effondre. Pas forcément pour une cause en particulier, mais plutôt un ensemble de problèmes, certains qui sont récurrents depuis quasiment les débuts du royaume hittite, comme les attaques incessantes d'un peuple situé sur les côtes de la mer Noire, les infâmes Gasgas, c'est peut-être l'attaque de trop des Gasgas. Ensuite, comme les peuples de la mer désorganisent le commerce international dans l'est de la Méditerranée, eh bien les Hittites ont du mal à s'approvisionner en blé. Parce qu'évidemment, la Cappadoce n'est pas vraiment une grande terre céréalière, et donc le blé qui nourrit la capitale provient de l'Égypte. Et on a des tablettes qui nous racontent que l'approvisionnement est compliqué. Et puis, il y a peut-être encore d'autres raisons, peut-être pas forcément d'ordre humain, par exemple des raisons climatiques, de sécheresse, qui ont peut-être accentué ces problèmes et font que la vie à tout ça doit devenir très compliquée. Et la famille royale abandonne à tout ça la capitale pour le sud de la péninsule anatolienne. Et donc l'Empire disparaît à peu près à ce moment-là.
C'est aussi la fin des Kassites de Babylone ?
Alors, c'est effectivement une désorganisation plus générale à l'est de la Méditerranée. L'Égypte abandonne ses colonies et se replie sur elle-même. La Babylone kassite est conquise par les Élamites venus d'Iran. L'Empire hittite s'effondre. Bref, il y a tout un ensemble d'éléments qui étaient pourtant fondamentaux de la politique du Proche-Orient au bronze récent, qui disparaissent complètement. Certaines villes, comme la ville d'Ougarit, sont carrément rasées. Et le Proche-Orient va mettre quelques temps avant de se réorganiser complètement. Ils écrivaient leur langue, le hittite, mais aussi d'autres langues de peuples voisins, comme le louvite et le palaïte. La langue acadienne également, qui sert de langue internationale à l'époque. Ils utilisent notamment cette langue pour converser avec les Égyptiens. Mais pour leurs inscriptions monumentales, ils utilisent un autre système d'écriture qu'on appelle les hiéroglyphes louvites. Ces hiéroglyphes, qui n'ont rien de commun avec les hiéroglyphes égyptiens, notent une autre langue qu'on appelle le louvite, qui est très proche du hittite.
Vincent Blanchard, vous en présentez dans l'exposition ?
Alors nous présentons plusieurs inscriptions en hiéroglyphes louvites, quelques-unes d'époque impériale, mais beaucoup plus d'époque néo-hittite, de l'époque où des petits royaumes sont nés de la chute de l'Empire hittite, et c'est eux qui véritablement vont utiliser ces fameux hiéroglyphes louvites pour faire de grandes inscriptions monumentales.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Alors ces hiéroglyphes louvites sont très très différents des hiéroglyphes égyptiens.
Tout à fait. Les hiéroglyphes louvites n'ont pas de rapport avec les hiéroglyphes égyptiens. Pourtant, ils ont le même type de valeur. C'est-à-dire que ces signes hiéroglyphiques, ils peuvent soit noter des sons, à savoir des syllabes, soit certains signes notent des mots entiers, et certains autres signes notent ce qu'on appelle des déterminatifs, c'est-à-dire des signes qui indiquent que le nom auquel ils sont attachés appartient à une certaine catégorie, des noms de villes, des noms de dieux, des noms de plantes, etc. Et on retrouve un peu cet ensemble de significations aussi bien dans les hiéroglyphes égyptiens que dans l'écriture cunéiforme ou ici dans les hiéroglyphes louvites.
Donc l'empire hittite s'effondre, mais quel est l'héritage par la suite de ce royaume hittite ?
Quand l'empire hittite s'effondre, les anciens gouverneurs des villes qui étaient sous son autorité prennent leur indépendance et beaucoup se font couronner rois. C'est le cas à Carchemish, où on a découvert dans la région le sceau du roi Kouzi-Teshub, sceau qui nous montre qu'en fait, le père de Kouzi-Teshub était le dernier gouverneur de l'empire hittite et lui finalement devient le premier roi du royaume de Carchemish. Donc on a bien cette continuité politique que l'on observe dans certains royaumes néo-hittites entre les anciens gouverneurs de l'empire et les nouveaux rois de ces petits royaumes.
Carchemish est un site absolument gigantesque, très très important.
Carchemish est assurément la capitale d'un des plus importants royaumes néo-hittites qui suit la chute de l'Empire. Il a été fouillé à partir de la fin du 19e siècle par les Anglais et encore au début du 20e siècle, notamment par Léonard Woolley, David Hogarth et Lawrence, le futur Lawrence d'Arabie. Et il découvre une ville décorée d'impressionnants reliefs de basalte, de statues également, d'ancêtres divinisés. C'est vraiment une ville qui avait un rayonnement incroyable et qui a probablement d'ailleurs inspiré les villes voisines, qu'elles soient néo-hittites ou araméennes.
J'ai lu que dans l'héritage du royaume hittite, la métallurgie du fer était importante.
En effet, les Hittites, au bronze récent, ont été les premiers à maîtriser la métallurgie du fer, qui va devenir de plus en plus importante à l'époque suivante. Mais la technologie du fer va se répandre rapidement dans tout le reste du Proche-Orient.
Donc, après l'Empire hittite, nous avons une sorte d'explosion en mini-cité-État, pourrait-on dire ?
Ce ne sont pas des cités-États comme les cités-États grecques. Le seul rapport qu'elles ont, c'est l'emprise territoriale, à savoir des royaumes qui ont la taille à peine d'un département français, centrés autour d'une importante capitale. Mais sinon, évidemment, la politique et le rapport entre elles n'a absolument rien à voir avec les cités-États grecques.
Quelle est la pièce pour vous qui illustre le mieux ici ce néo-hittite de Carchemish ?
Eh bien, ce n'est pas une seule pièce, mais un regroupement de trois pièces, à savoir cette tête de statue que nous avons ici, qui appartenait à la statue d'un roi divinisé, et les deux têtes de lion qui ornaient la base sur laquelle était posée la statue. Cette statue de roi, eh bien, on voyait le roi marchant sur le dos de deux lions, un peu comme un dieu marche sur le dos de son animal à tribu. Et donc le roi est représenté ici divinisé après sa mort. Et on voit bien justement la volonté de ces nouveaux rois, qu'ils soient anciens gouverneurs ou anciens chefs de tribu pour les Araméens, qui veulent absolument donner une forme de dignité à leur lignée, asseoir leur pouvoir, créer du lien entre eux et leur peuple, et donc diviniser leurs ancêtres, notamment par l'intermédiaire de ces statues monumentales. Celles-ci devaient faire 3 mètres de hauteur au total, et elles n'étaient pas installées dans un caveau familial, elles étaient au cœur de l'espace public, et elles recevaient un culte de la part de la population. Donc on voit bien l'utilisation de l'héritage de la sculpture monumentale hittite pour finalement légitimer le pouvoir de ces nouveaux souverains.
Vincent Blanchard, vous l'avez dit il y a quelques minutes, le mot araméen, ça, c'est aussi un vrai événement, l'émergence de cette société araméenne.
Oui, parce qu'il n'y a pas que les anciens gouverneurs hittites qui sont les héritiers de l'Empire hittite. Il y a également de nouveaux souverains qui sont les héritiers des chefs nomades de ces groupes de population qu'on appelle les Araméens, qui, au bronze récent, vivaient dans la steppe à l'écart des grands centres urbains. Et certains de ces chefs nomades vont décider de devenir des rois à la tête de nouveaux petits royaumes. Comme évidemment ils étaient nomades, ils n'ont pas de tradition urbaine, architecturale ou même littéraire, et donc ils vont s'approprier l'héritage de cet art monumental de la fin de l'Empire hittite et des royaumes néo-hittites.
Alors les Araméens ont visiblement un alphabet, eux.
Alors les Araméens ont un alphabet, mais bien plus tard. Quand les Araméens fondent leur royaume, eh bien ils n'écrivent pas encore. Et donc quand ils vont décorer leurs monuments et créer des monuments pour exalter le pouvoir de leur roi et leur relation avec les dieux, eh bien, ils vont utiliser le même type de monument et le même type d'écriture monumentale que les autres. Et donc, au royaume de Massouari, qu'on peut aller voir maintenant, eh bien, on a par exemple de très belles stèles représentant le dieu de l'orage s'apprêtant à frapper ses ennemis. Et le texte est écrit en langue louvite, en hiéroglyphe louvite. Pourtant, les rois ont des noms araméens. Les Araméens, notamment ceux de Massouari, utilisent la langue et les hiéroglyphes louvites, et ce n'est que bien plus tard que les Araméens écriront leur propre langue. Mais ils ne l'écriront pas effectivement avec des hiéroglyphes louvites, ils vont s'inspirer d'une autre langue qui est déjà écrite à l'époque, c'est le phénicien. C'est ce qu'on voit notamment dans un autre royaume, le royaume de Sam'al, où l'une des premières inscriptions qu'on connaît, celle du roi Koulamoua, dont nous avons un moulage ici dans l'exposition, eh bien, le roi Koulamoua choisit d'écrire en langue phénicienne et en alphabet phénicien. Donc, il fait un choix différent des rois de Massouari. Et à Hamat, un royaume situé sur les bords de l'Oronte, eh bien, au début du royaume, on a des inscriptions en hiéroglyphe louvite. Et à la fin de l'histoire du royaume, vers 800 avant Jésus-Christ, le roi Zakour, lui, par contre, il écrit en langue araméenne et en écriture araméenne. Cette écriture araméenne, alphabétique, elle a évidemment pour origine l'alphabet phénicien, et les deux sont très très proches en réalité, hein, c'est un peu la même chose. Mais voilà, vers la fin de l'histoire de ces royaumes, petit à petit, les Araméens ont abandonné les écritures des peuples qui étaient leurs voisins pour écrire leur propre langue avec leur propre alphabet dérivé du phénicien.
Vincent Blanchard, je vois quelque chose qui accroche mon œil, que je crois connaître. Est-ce le lion terrassant, le guerrier que j'ai vu à Bagdad devant le musée donc d'archéologie ?
Effectivement, c'est un moulage du même lion. Plus exactement, celui que vous avez vu devant le musée de Bagdad est également un moulage, le lion originel se trouvant à Babylone, toujours sur le site de Babylone. Et dans les années 30, il en a été fait plusieurs moulages, dont un est au Louvre et a été restauré et installé dans l'exposition.
Alors nous allons avancer parce que il nous reste encore un élément absolument capital de cette exposition, une statuaire tout à fait hors norme et la découverte d'un personnage tout à fait particulier, Von Oppenheim.
C'est un diplomate allemand qui s'appelait Max von Oppenheim et qui avait toujours été fasciné par l'Orient depuis sa plus tendre enfance. Il avait réussi à obtenir un poste dans une mission diplomatique au Caire et à partir de là, il décide notamment en 1899 d'aller se promener dans le nord de la Syrie où il entend parler d'un site où des Tchétchènes auraient découvert en cherchant à enterrer leurs morts des statues d'animaux à tête humaine. Alors, il veut absolument qu'on l'y emmène. Bon, les gens sont plutôt réticents et finalement acceptent. Et il va effectivement découvrir les sculptures du palais d'un roi araméen, le roi Kapara. Et il va demander immédiatement aux autorités ottomanes de pouvoir fouiller le site. L'autorisation lui est donnée immédiatement. Mais il ne revient en réalité qu'en 1911 pour faire la fouille et dégager la ville antique de Gouzana, appelée Gozan dans les textes bibliques. Cette ville antique de Gouzana, elle est donc sur le site actuel de Tel Halaf, au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie actuelle. Et de 1911 à 1913, il va découvrir la ville, ses murs, la citadelle, un palais à l'est de la citadelle et un palais à l'ouest de la citadelle, d'où proviennent la plupart des incroyables sculptures monumentales qu'il découvre.
Et puis ensuite, il y a bien sûr la guerre de 14, et il faudra attendre un moment pour que von Oppenheim puisse revenir sur le terrain.
En effet, parce qu'après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne n'entre pas dans la Société des Nations. Or, la Syrie est sous mandat français et les autorités françaises interdisent à Max von Oppenheim de revenir à Tel Halaf. Il faut attendre 1926, l'entrée donc de l'Allemagne dans la Société des Nations, pour que l'année suivante, Max von Oppenheim ait le droit de revenir à Tel Halaf pour retrouver les objets qu'il y a découverts. Il y a un partage de fouilles. Une partie des objets reste en Syrie et sont maintenant dans les collections du musée d'Alep. Et l'autre partie, Max von Oppenheim les emmène à Berlin et les installe dans une ancienne fonderie dans le quartier de Charlottenburg où il va fonder donc le Tel Halaf Museum.
Et puis, drame, novembre 1943, le musée est bombardé.
Oui, parce que vu du ciel, ce musée ne ressemble pas à un musée, mais à une fonderie, forcément. Et une bombe au phosphore éclate et un incendie ravage le musée. Toutes les sculptures sont chauffées à blanc par l'incendie. Et quand les pompiers arrivent pour éteindre les flammes, le choc thermique provoqué entre le brasier et l'eau glacée des pompiers fait éclater toutes les statues en basalte. Max von Oppenheim arrive à extirper des décombres 27 000 fragments de basalte qu'il fait entreposer dans les caves du Pergamon Museum, donc qui est dans la partie est de Berlin. Et donc ces fragments vont rester pendant 60 ans, pendant toute la guerre froide, dans les caves du musée.
Donc ce sont là encore des personnages extrêmement menaçants, des sphinges, des sortes de lions ou de tigres ?
Effectivement, à l'entrée du palais de Capara, on avait évidemment des animaux gardiens, comme souvent, et l'animal gardien fétiche, c'est le lion. Bien évidemment. Alors, il y avait des lions en Syrie et en Mésopotamie à cette époque, donc, qui représentaient un véritable danger pour les populations. Et donc, la puissance du lion fait qu'on le plaçait à l'entrée des palais.
Alors, ces 27 000 petits fragments de basalte, ils ont été remontés il y a environ 10 ans.
Alors, c'est au milieu des années 90, après la chute du mur de Berlin, que la Fondation von Oppenheim et le Pergamon Museum se disent « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de remonter au moins l'une des statues ?» Et ils remontent une des statues avec succès, et en 2000, ils décident d'installer les 27 000 fragments dans un entrepôt, et de 2000 à 2010, ils vont remonter toute la collection, c'est-à-dire que des 27 000 fragments, ils vont retrouver une centaine de statues, de reliefs et d'éléments d'architecture. Aujourd'hui, seuls 2 000 fragments n'ont pas retrouvé leur place initiale, mais bon, c'est un pourcentage assez correct finalement.
Votre exposition finit bien sûr sur un des très très grands chefs-d'œuvre de la collection Oppenheim, que l'on voit même en cours de dégagement, une sorte de statue funéraire de femme, de déesse ?
Eh bien, c'est la statue préférée de Max von Oppenheim, qu'il appelle sa grande déesse ou sa Vénus, mais effectivement, en réalité, ce n'est pas une déesse malgré les proportions de la statue. C'est une statue funéraire, une statue d'ancêtre, représentant vraisemblablement une femme en train de banqueter. Elle a dans une main une coupe à boire que l'on devait utiliser lors du banquet funéraire et là, dans un banquet éternel dans l'au-delà. Elle avait été retrouvée intacte, emmurée dans un massif de briques. Et donc les dégradations que l'on voit aujourd'hui sur la statue datent uniquement du drame de la Seconde Guerre mondiale.
Vincent Blanchard, restent les Assyriens ?
Dans la quatrième partie de l'exposition, nous évoquons évidemment les Assyriens qui vont conquérir un à un tous les royaumes néo-hittites et araméens et les englober dans leur immense empire. Mais ils vont également être les héritiers culturels de ces royaumes. Au travers de la sculpture monumentale assyrienne qui a pour origine la sculpture monumentale que l'on voit à Carchemish ou à Malaisie ou ailleurs. Mais l'héritage le plus fort, évidemment, des royaumes dans l'Empire assyrien, c'est bien entendu la langue et l'écriture araméenne. Puisque l'écriture araméenne donc naît à la fin de l'histoire des royaumes néo-hittites et araméens, et quand les Assyriens vont conquérir ces royaumes, ils vont déporter les populations, comme ils l'ont fait tout le temps. Et donc les Araméens vont se retrouver un peu partout dans le Proche-Orient. Et c'est pour ça que la langue et l'écriture araméenne vont très vite devenir la langue et l'écriture les plus utilisées de tout le Proche-Orient. À l'époque assyrienne, tout le monde va parler araméen. Et ce sera même encore le cas sous l'Empire perse, et plus tard encore, même après les conquêtes d'Alexandre, où le grec va s'imposer également, eh bien, on aura toujours la permanence de l'araméen qu'on retrouve aujourd'hui sous la forme du syriaque.
L'occasion de voir, bien sûr, les extraordinaires ivoires de Nimroud, fouillés, j'imagine, par Malouane, et peut-être même sauvés par Agatha Christie.
Max Malouane, effectivement, a fouillé Nimroud et a dû découvrir, avec son épouse célèbre, Agatha Christie, certains des ivoires du royaume. Malheureusement, aucun de ceux qui sont présentés ici. Les Assyriens aimaient beaucoup ces plaquages d'ivoire de meubles précieux. On en a retrouvé beaucoup dans les palais assyriens, mais ils proviennent bien de ces royaumes néo-hittites et araméens qui ont été conquis un à un par ce peuple venu du nord de l'Irak.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré à une grande découverte qui vient d'être réalisée en France.